J'ai l'immense plaisir, le très grand honneur d'accueillir à présent Monsieur Chéri Samba. Monsieur Samba est né en République démocratique du Congo. En 1972, il s'installe à Kinshasa, la capitale, où il gagne sa vie comme peintre d'enseignes publicitaires, tout en réalisant des bandes dessinées pour sa revue Bilingue Info. 3 ans plus tard, il transpose ses bandes dessinées sur la toile, inaugurant ainsi la peinture à bulles, et il atteint très rapidement non seulement une popularité locale, mais tout à fait majeure, puisqu'il est considéré rapidement comme le grand maître de la peinture populaire. L'œuvre de Chéri Samba a fait l'objet de très nombreuses expositions à travers le monde, dont la première à la Biennale d'art contemporain bantou de Libreville en 1985, puis Magicien de la Terre, Paris 1989, Africa Explores, 20th Century African Art, New York 1991, ou encore à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris en 2004. Je lui laisse donc la parole à présent et en le remerciant encore vivement d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Samba.
Je demanderai au bureau d'avoir l'amabilité de m'accorder les minutes que je vais perdre là en me présentant, parce que je suis un peu frustré de voir que tous les exposants ici ont parlé en leur langue, donc à la langue qui leur est facile. Et moi, je vais m'efforcer de parler en une langue qui n'est pas la mienne, donc le français, parce qu'on m'a dit que si je parlais en lingala, personne ne m'écoutera, personne ne me comprendra. Alors, je voudrais vous demander à tous d'avoir l'amabilité d'accepter mes propos et que mon poursuivant, M. Thomas, que lui soit au moins rapide pour les minutes que moi je vais lui dégrainer. Alors, je demande aussi que vous acceptiez que je lise. Hier, je voyais la présentatrice collée sous son papier, donc il ne levait pas son visage pour que nous le voyions. Et moi, si je le fais, qu'on ne me condamne pas, s'il vous plaît. Donc là, et la photo que vous voyez date des années 70. C'était mon premier véritable atelier. Donc je travaille dans un atelier qui font partie de ma maison, donc ma résidence privée. Et dans ma résidence privée, j'ai plusieurs ateliers. Il m'arrive de recevoir les gens pendant que je suis en train de peindre. Mais je ne montre jamais le tableau que je viens à peine de commencer. Je reçois dans les pièces où les tableaux sont plus aboutis. En fait, je peux montrer les esquisses terminées, mais je ne montre pas. Non, j'aime pas montrer mon travail quand je commence à appliquer la couleur sur la toile. Je fais en sorte d'avoir à côté de moi tout pour travailler dans les meilleures conditions et être à l'aise. Et je crois que je possède un atelier idéal. Je ne suis pas dérangé par les coupures de l'électricité parce que j'ai un groupe électrogène. Je travaille principalement avec une lumière artificielle. En construisant ma maison, je n'ai pas prévu de laisser entrer suffisamment la lumière pour travailler dans mon atelier avec une lumière du jour. Donc, je travaille parfois à l'extérieur. Une fois mon tableau fini, je le sors pour le voir avec une lumière naturelle. Quand on travaille avec une lumière artificielle, la lumière est différente et le résultat n'est pas le même. J'évite comme ça les contraintes techniques qui s'imposent à moi dans mon pays. Aujourd'hui, je n'ai pas de soucis économiques. Avant, je me demandais si j'arrivais un jour à me nourrir grâce à mon travail. Mais en persévérant, j'ai réussi à me libérer de ces contraintes matérielles. J'utilise une peinture acrylique classique. À vrai dire, je préfère l'acrylique parce que ça craque moins. J'ai quelques catalogues d'art dans mon atelier. Les autres artistes ne m'inspirent pas forcément, mais j'aime je respecte leur travail et leurs travaux. Que je comprenne ou pas les œuvres, j'essaye de les apprécier. Par exemple, la première fois que je vis le travail de Basquiat, j'en revenais pas. Je ne vais pas dire beaucoup de choses là-dessus, mais... Je dessine avant de peindre. Je dessine sur un papier duplicateur que je photographie ou je le filme. Puis, je le projette sur la toile à l'aide d'un rétroprojecteur. C'est une facilité que la technologie me permet. Avant, cela me prenait beaucoup plus de temps. Par contre, je travaille toujours l'image projetée sur la toile. Je dessine au crayon sur la toile, puis j'applique la peinture. Dans mes premières années, j'appliquais la peinture directement sur la toile. J'avais l'image dans ma tête et j'appliquais la peinture à l'instant. Aujourd'hui, j'ai toujours l'image du tableau fini dans la tête. Donc, quand je commence une œuvre, je sais comment elle sera quand elle sera finie. Je vois aussi comment je dois travailler. Ce qui m'évite de faire des erreurs, mais je ne suis pas virtuose. Dès l'enfance, je savais que je serais peintre. Mais je ne savais pas que ce métier existait. Je ne savais pas que ce métier existait. Mon jeu préféré était de griffonner quelque chose dans le sable. J'ai un don, je pense. Mais je ne suis pas sans défaut. Je préfère travailler en série parce que je peux montrer sur plusieurs tableaux tout ce que j'ai envie de faire. C'est surtout un gain de temps. Faire un tableau après l'autre, c'est assez difficile. Je ne suis plus capable de créer un tableau en moins d'un mois. Donc, quand j'ai... Bon, le papier que vous avez là, c'est tout singulier, mais moi, là, je vais le mettre au pluriel. Donc, quand j'ai des idées, je les étale sur plusieurs tableaux et il ne reste plus qu'à mettre la peinture. Avec la couleur, j'embellis l'image. J'aime que l'œuvre soit colorée et de préférence avec des couleurs vives. Ces couleurs vives sont plus attirantes. En Afrique, les couleurs sont plus vives qu'en Europe, où l'on trouve des couleurs pâles et grises. Avec... où est-ce que j'étais ? Bon, je préfère les couleurs d'Afrique. Elles sont plus vivantes, mais... Non, ne riez pas, ça c'est une autre phrase, c'est une autre paragraphe. Donc je préfère les couleurs d'Afrique, elles sont plus vivantes, mes couleurs sont sentimentales. Vous voyez que c'est une autre phrase là, donc mes couleurs sont sentimentales. Je les utilise en fonction de mes envies. Elles n'ont pas de signification particulière, mais elles expriment ce que je ressens ou elles font tout simplement partie de ma composition. Lorsque j'avance dans mon travail, je regarde si ma main est en harmonie avec ma pensée. Je m'éloigne souvent de mon travail pour m'assurer que ma pensée corresponde à ce que j'ai transmis sur la toile. Par contre, pour les détails, j'aime être près de la toile. Même si les détails sont importants, j'aime occuper toute la toile, trouver l'équilibre des formes et des couleurs. Les détails sont faits au fur et à mesure de mon travail. Et l'œuvre doit être nette et la peinture lisse, sans défaut. Je ne travaille plus avec des assistants, mais lorsque c'était le cas, je leur laissais le temps de travailler sous leur signature. Quand on travaillait ensemble sur une œuvre, l'œuvre était signée l'atelier Chéri Samba. Quand un artiste travaillait seul, il signait son nom et le nom de l'atelier, par exemple, Sims chez Chéri Samba. Et bien sûr, quand je travaillais seul, je signais Chéri Samba. Et je trouve que signer Chéri Samba, toutes les œuvres qui étaient créées dans mon atelier, était un manque d'honnêteté pour les autres artistes. Ce sont eux aussi des artistes à part entière. Ils méritent d'être connus. Je conteste le fait de ne travailler que pour les maîtres. Ce sont mes amis. Avec la peinture, et qu'est-ce qu'il dit ? Avec le peintre congolais, je suis en communion. J'étais président de l'Association des peintres congolais de style populaire. La question était de promouvoir l'art dans un pays où l'art est peu considéré. Cela avait de l'influence. On a permis un accès au grand public, un accès à l'art et on s'est fait connaître à l'étranger. On partage aussi des idées et nous cherchons à défendre nos peintures. Mais toutes ces discussions avaient aussi lieu avec des gens du monde de l'art, des critiques, des galeristes, etc. Je pense que je suis à la tête d'une école africaine de peinture. Et c'est mon devoir de faire avancer les choses. Je collectionne aussi les travaux de mes collègues, comme mes œuvres sont aussi collectionnées. J'aime leur travail, j'aime leur travail aussi. Mais j'ai remarqué que ce qui intéressait les gens, c'était qu'une œuvre soit de Chéri Samba. Donc, j'ai arrêté de travailler avec les assistants. Par contre, je les aide à être reconnus. Par ailleurs, ma technique a beaucoup évolué. Et désormais, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de m'aider parce que je ne suis jamais satisfait. Avant, j'appliquais la peinture directement sur la toile, sans dessin au crayon. Et je ne me contente pas de remplir les dessins avec de la peinture. Je commence par les dessins au crayon que je recouvre par un fond unique qui est souvent de couleur marron. Et c'est à partir de ce fond, unique que je développe d'autres couleurs. Et là, j'ai trouvé facilement de bien peindre. Même... Il n'y a rien là. Même si je suis autodidacte, je pense que... je suis un peintre que l'on pourrait définir comme intellectuel. J'essaie de mettre dans ma peinture des thèmes qui me touchent. Je travaille sur l'actualité ou mon quotidien. Avant que je commence cette aventure, je ne voyais pas des tableaux qui portaient des écrits. Alors, je voulais apporter ma griffe. Je l'appelle la griffe sambayenne. C'est pour me différencier des autres. Avant, je voyais des tableaux qui me faisaient des frissons, comme ceux de Jimon Mbweki. C'était beau à contempler. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire de différent. Et j'ai souhaité rajouter ce que les autres ne mettaient pas, le texte. Dans un sens, c'était normal, parce que à l'époque, pour vivre, je peignais des enseignes publicitaires et je créais des bandes dessinées. Je pense que j'ai trouvé ma voie. Et même parfois, si je ne mets pas de texte dans ma composition, on me dit, « Chéri Samba, vous n'avez pas fini votre tableau. » Et je me forçais alors à intégrer un texte pour garder mon style, celui que tout le monde attend. Et quand je peins, j'ai trois soucis. Essayer de peindre la réalité et donc être le plus réaliste possible. Interpeller les consciences, dire la vérité. Il y a des gens qui semblent oublier ce que nous vivons et leur remettre les idées en place. Ajouter un peu d'humour pour que les tableaux soient plus attirants. Souvent, je mets l'humour dans les textes parce que l'image n'est pas toujours humoristique. J'essaie de faire sourire les gens, même si mon intention est de faire réfléchir. L'humour attire. Dans ma vie quotidienne, je gronde rarement mes enfants. J'essaie de leur parler en les faisant rire et ils comprennent mieux les choses. Par conséquent, même si quelquefois j'aimerais peindre un peu différemment, de façon un peu plus abstraite, avec des formes simples ou géométriques, je ne le fais pas parce que il y a encore beaucoup de sujets de la vie quotidienne que j'ai envie d'exploiter. Et uniquement par la peinture. J'ai essayé d'autres pratiques. J'ai essayé d'autres pratiques artistiques comme la sculpture, mais il n'y a que la peinture qui me permette de m'exprimer justement. C'est aussi pour ça qu'il m'arrive de reproduire mes tableaux quand j'ai un sujet, quand un sujet me tient à cœur. Je n'aime pas qu'il soit visible que par une seule personne. Désormais, je me permets de réaliser la même œuvre en 3 exemplaires. Et l'acheteur le sait dès le départ. Le format varie et le tableau n'est jamais identique. Les couleurs sont différentes et les détails aussi. Peindre est un besoin. Je m'exprime pleinement par ce moyen-là. Jamais il m'est arrivé de ne pas pouvoir peindre ou même de prendre des vacances. Peindre, c'est comme respirer. Parler de ma peinture aussi, c'est très important. Les Occidentaux pensaient qu'il n'y avait pas de l'art en Afrique. Ils ne voyaient que le masque et ne les considéraient pas comme de l'art même si ils les collectionnaient. Avec nous autres, on montre qu'il y a de l'art partout dans le monde. En parlant de mon art, je fais la fierté de mon peuple. Comme en venant ici au Collège de France. Mon travail est fait pour être vu et lu. Dans le temps, mon premier spectateur était l'homme de la rue. J'avais l'habitude d'exposer mon œuvre sur les façades de mon atelier. Maintenant, je ne peux plus le faire parce que dès que mon œuvre est finie, il prend la direction de celui qui le veut. Le premier spectateur, pour l'instant, c'est mon agent, M. André Magnin. Mais je ne le regrette pas. Je sais que quand mon agent prend une œuvre, ce n'est pas pour la mettre dans un coffre-fort. C'est pour donner à mon travail une large visibilité. Et ça, j'en suis très fier. Je suis souvent surpris de voir que la réaction du public devant mon œuvre est la même, peu importe où se trouve dans le monde. Et du coup, je n'ai pas de mal à voir mes tableaux partir. Même si certains sujets sont un peu provocateurs, je n'ai pas peur qu'ils ne soient pas vendus. Je sais comment dire les choses. D'ailleurs, je me reproche de ne pas garder assez de tableaux pour moi-même. Il faudrait que je commence ma propre collection. En y réfléchissant, j'ai déjà reproduit un tableau pour ma propre collection, À l'origine, je voulais le garder pour moi parce que je n'étais pas sûr qu'il puisse plaire à quelqu'un. Mais en fait, il est parti très vite. Ce tableau s'intitule Un vieil enfant. Donc, un adulte qui ne veut pas sortir du ventre de sa mère parce qu'il se demande comment vivre dans ce monde. Pourtant, il a les capacités. Un homme responsable ne voudrait pas voir ce tableau. Non, il ne voudrait pas voir ce genre de tableau parce qu'il peut penser qu'on est en train de se moquer de lui. C'est pour dire aux gens qu'ils doivent accepter de surmonter les obstacles au lieu de ne rien faire. Il m'arrive aussi de rencontrer des problèmes en traitant de certains sujets. J'ai été censuré à l'époque de Mobutu, mais cela ne m'a pas empêché de continuer à peindre. J'ai été arrêté deux fois. Une fois en 1975, parce que j'avais peint sur la rébellion au Congo. Et une autre fois, parce que j'ai critiqué le manque de liberté au Congo. Les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons, par exemple. Mais, quoi qu'il en soit, les politiques se sont fatigués de me poursuivre. Mobutu et Kabila m'ont décoré malgré mes sujets provocateurs. Ils savaient que j'avais raison, que je disais la vérité et ne pouvaient plus se permettre de m'empêcher de le dire. J'aime les tableaux politiques. La politique, qu'on la fasse ou pas, elle nous rattrape toujours. Être autodidacte m'a apporté la force d'un penseur libre. J'aime chacun de mes tableaux parce que, avant même de le commencer, je sais à quoi il doit ressembler. Et je ne peux pas peindre quelque chose en m'imaginant que cela ne puisse pas me plaire. Ah, ça non. Et chacun de mes tableaux est comme mon enfant. On me demande souvent lesquels je préfère, mais comment préférer un de ses enfants à l'autre? Là, on n'est pas un bon parent. Bon, alors, dans ce tableau, tu changes là, s'il te plaît. Dans ce tableau, je m'interroge. Quand il n'existait pas l'école dans les époques anciennes, quel niveau avait le premier instituteur? Je demande que les gens m'excusent, franchement. Et la sagesse du savoir n'est pas pour moi le fruit de la science, mais plutôt le produit de l'imaginaire. J'ai souvent l'impression que les gens attendent de faire des choses qui leur soient dictées, alors que tout le monde a le pouvoir d'inventer quelque chose, de créer quelque chose. Selon moi, l'art ne s'apprend pas. L'art qui naît. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des écoles d'art. Les étudiants veulent apprendre des techniques, mais c'est insuffisant si on n'a pas les dons. Je pense, hein, moi je pense. Et pour ma part, je veux que proposer aux gens ce que j'ai en moi. Ce tableau, La sagesse du savoir, n'est peut-être pas mon meilleur tableau, mais son contenu pour moi est très grand. Je suis autodidacte. Je n'ai pas été à l'académie. Au Congo, dans le temps, beaucoup de gens étaient frustrés, par exemple, de ne pas parler le français correctement, mais pas moi. Pour moi, la critique, qu'elle soit méchante ou flatteuse, elle est toujours la bienvenue. J'écoute beaucoup, mais je suis le seul, et je suis le seul maître de ce que je vais faire. Dans Petit Poisson devenu grand, je me suis présenté avec une queue de poisson, de grandes oreilles et plein de petites oreilles autour. Cela me permet d'écouter beaucoup ce que se dit, mais en réalité, la seule chose qui m'intéresse, c'est de réaliser ce que j'ai dans mon cœur. Donc, que ça plaise ou non, je ne fais que ce que j'ai envie de faire. On m'avait demandé d'être le commentateur d'un film intitulé Kinshasa, ce qui veut dire Kinshasa, la joie. Et entre guillemets, plus tard ce film a eu un prix, hein. Lors de sa projection à l'Institut culturel français, les étudiants étaient choqués d'écouter parler quelqu'un qui parlait français aussi mal que moi. Ils ont demandé au réalisateur pourquoi il m'a choisi comme commentateur. Je parlais pas bien le français et je faisais honte au pays. Je n'ai pas voulu laisser le réalisateur répondre à ses étudiants. J'ai répondu avec mon mauvais français. Et franchement, je vous dis, pendant que moi je parlais français, si vous n'avez pas bien mangé, mais vous pouvez vous casser les côtes, hein, parce que mon accent il était très drôle. Alors, moi, je n'ai pas voulu que le réalisateur réponde. Il fallait que moi-même, hein, je réponde à ses étudiants. Mais vous devriez être fier de moi. Franchement, vous devriez être fier de moi. J'ai fait l'effort de parler une langue qui n'est pas la mienne, alors que les étrangers, pas seulement les Français, les étrangers ne font même pas l'effort de parler la nôtre. C'est vous là, au contraire, c'est vous qui devriez avoir honte de me reprocher de mes efforts. Vous ne voyez pas que j'ai là, je me force quand même. Et c'est de là qu'est venue la sagesse du savoir. Donc, il faut oser. Il faut oser. Vous devez savoir, par exemple, qu'à mes débuts, je ne savais pas ce que le terme perspective voulait dire, parce que ces mots n'existaient pas dans ma langue. Pourtant, je savais ce qu'était la perspective. Mais quand on m'en parlait, quand on utilisait ces mots, ah, je ne savais pas de quoi on parlait. À mes débuts, j'ai souvent été invité dans des réceptions ou autres. Alors, des critiques d'art disaient, mais les critiques d'art disaient dans leurs articles, Chéri Samba ne sait pas peindre. Il ne connaît pas la perspective, mais pourtant, on l'invite partout. Et il fallait que je réponde à ces critiques. Je me suis entêté, j'ai continué à travailler, et ça, je pense que a payé. Je suis l'ambassadeur de mon pays et de tout mon continent, et j'en suis fier. D'un point de vue personnel, mon meilleur tableau, c'est l'espoir fait vivre. Dans un seul tableau, je retrace tous les parcours de ma vie et de ma carrière. J'ai peint mes débuts inconscients et toute l'évolution de ma vie, enfance, adolescence, ma carrière, etc. Il paraît que j'aime la couleur, est une icône. Cela me gêne un peu, car ce genre de tableau, beaucoup d'autres peintres l'ont fait avant moi, comme Escher, par exemple. Il m'arrive parfois d'utiliser les œuvres d'autres artistes venus avant moi, comme Arcimboldo. Mais ce n'est pas du plagiat. Quand je m'inspire ou quand je reprends l'œuvre d'un confrère, je le cite toujours. Dans les textes que j'écris, je présente toujours son nom. Le plagiat ou le faux, c'est malheureux. À Bruxelles, il y a beaucoup de faux tableaux chez Chéri Samba. Heureusement, je le vois tout de suite. Mais des fois, on les trouve dans les maisons de vente ou chez un collectionneur. Et ça me blesse, même si il paraît que c'est la rançon de la gloire. Et je peux aussi m'inspirer des textes comme Mes étoiles noires de Lilian Thuram. Ce livre m'a inspiré la vraie carte du monde. Le texte présenté sur le tableau est de lui, mais l'image est mienne. Je ne m'occupe pas de la manière dont mes tableaux sont exposés, car j'ai confiance dans les professionnels. Je ne travaille pas sous pression. Je préfère que ma participation soit annulée plutôt que de peindre sous la contrainte. Je l'ai exprimé dans un tableau intitulé « Pourquoi ai-je signé un contrat ?» suite à l'exposition « Magicien de la Terre » en 1989. J'avais envie de travailler avec une galerie et j'ai signé un contrat parce que pour moi, c'était une étape importante dans ma carrière, une reconnaissance. Mais c'était une erreur. Je préfère rester libre et vivre sans contrat. Je ne peux pas me presser de produire. Peu importe la raison. Un tableau est fini quand je pose ma signature. Donc, même si je dois travailler sur un même tableau pendant des années, il n'y a que moi qui puisse juger s'il est fini ou pas. Et le temps est important pour moi, mais je dois pouvoir le gérer. Il m'arrive de suspendre un tableau parce que je sais qu'il va me prendre beaucoup de temps. Du coup, je continue des œuvres qui sont plus rapides à exécuter ou qui prennent moins de temps. En fait, chaque étape de mon travail est importante. Mes esquisses sont aussi des œuvres. Je les colorie même quelquefois. D'ailleurs, ce ne sont même pas des esquisses. Ce sont mes tableaux en miniature. Et je les vends quelquefois. Sans ces dessins, je ne peux pas arriver à l'œuvre finale. C'est pour cela que la notion du temps est importante. J'ai reproduit entre 8 et 10 tableaux par an. Donc la pression, ça ne me va pas. Pourtant, c'est toujours un honneur pour moi de répondre à des projets spécifiques tels que ma vision de Paris en 1982 pour le magazine Actuel, les travel books sur Paris de Louis Vuitton. J'en suis toujours flatté. Et l'été prochain, je participerai à une exposition dans l'un des plus grands musées du monde. Je ne le cite pas. Il paraît que tout le monde connaît le plus grand musée du monde. Et les gens disent que je suis au sommet de ma carrière, au sommet de mon art. Mais je suis encore vivant. Alors que je continue à m'expérimenter. Je continue à expérimenter de nouvelles techniques et à faire des recherches. Je suis toujours au départ, je suis toujours au début d'une nouvelle aventure. Et je vous remercie.